Adicias a toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier épisode sur la danse grecque en montrant la richesse du vocabulaire des danses que les vases offrent en analyse et essayer de comprendre comment la danse grecque pourrait être l'ancêtre de la danse classique actuelle. Les représentations dansées sur les documents relèvent d'un apprentissage, on le voit, puisqu'il existait des écoles de formation, de danse, de culte et de fêtes dédiées aux dieux. Quant aux danses de la vie quotidienne, il n'existe pas de traité explicatif de ces danses. On ignore donc leur nature exacte. On sait seulement que durant les danseuses recevaient des remerciements, des petits cadeaux, comme par exemple au moment des danses de naissance, on leur donnait des petits pains ronds de mil. On sait aussi que durant les danses nuptiales, le soir, on chantait l'épithalame, qui veut dire « chanson du lit », et on dansait devant la porte des jeunes mariés. Chaque moment important de la vie donnait lieu à une cérémonie. Pour parler de la technique de la danse grecque, nous allons utiliser essentiellement les documents figurés. En suivant les chemins de Germaine Prudhomo, qui a fait un catalogue des figures dansantes répertoriées sur les vases, nous allons mettre en parallèle les pas grecs quand il y a eu confirmation que les figures sont bien le résultat de pas dansés, avec les pas de la technique de danse classique actuelle. Comme aucun traité de danse de l'époque classique grecque n'a été retrouvé, nous leur donnerons le nom du vocabulaire classique que nous connaissons. Nous pouvons affirmer que les pas sont pour un grand nombre d'entre eux les mêmes aujourd'hui. Nous commencerons par les positions. La danse classique répertorie 6 positions de base des pieds, allant de la première à la sixième. Nous les retrouvons sur l'iconographie avec la même exactitude. On sait également avec certitude que les Grecs appliquaient la règle de l'en dehors, comme en classique. On peut voir les danseurs dans ces positions, soit en ouverture, c'est-à-dire en utilisant l'en dehors, soit les pieds en parallèle ou position dite fermée en langage académique. L'en dehors est un principe essentiel de danse classique qui permet un équilibre stable en seconde position. Une élévation plus haute de la jambe, elle permet également une esthétique du mouvement. C'est pourquoi les Grecs l'utilisaient beaucoup. On continue avec l'assiette du pied, c'est-à-dire la manière dont le pied repose sur le sol. Les danseurs sont parfois les pieds à plat ou sur demi-pointe. Et même quelquefois, la danseuse donne l'impression d'être sur la pointe du pied, ce qui est impossible sans le soutien renforcé des chaussons. Ils dansaient le plus souvent pieds nus. Maintenant, imaginons une barre classique. On commence par les pliés, que l'on peut voir également sur les vases dans toutes les positions, le plus souvent en ouverture, très rarement en fermeture. Puis, continuons avec les relevés, qui consistent à remonter sur la demi-pointe sans changer de position de jambe. On continue avec les piétinés sur demi-pointe, que l'on voit dans les danses des taïrs, des ménades, des cariatides. Ensuite, les dégagés, qui consistent à pointer un pied au sol en partant d'une position bien fermée. On peut les voir en seconde, en quatrième, devant ou derrière, jambes tendues, jambes pliées, souvent dans les danses de ménades, de satyres, ou bien les athlètes, ou encore les danseuses de banquet, mais le plus souvent, les guerriers dansant la pyrrhique, et parfois les silènes. Les battements en seconde se faisaient surtout en ouverture, par exemple, la démonstration de pan dansant qui lève la jambe très haut à la seconde en ouverture. Les arabesques jambes levées tendues derrière sont peu représentées, à l'inverse de la danse classique où elles ont une place importante. Par contre, l'arabesque arrière, jambes pliées, appelée attitude en classique, est largement présente. Maintenant, quittons la barre et passons au milieu, que l'on dit le travail du milieu. Les échappées, c'est-à-dire passer d'une position de pied fermé à une pied ouvert d'un seul mouvement, comme on le voit dans les danses de satyre, faune et phèbe. Il y a ensuite les raccourcis en quatrième devant, qui semblent avoir été les pas préférés des satyres ou des danses en l'honneur de Dionysos. On peut aussi voir le déroulé d'un pas de parcours qui permettent de se déplacer avec tous les détails, comme les glissades, les pas de bourrée, en descendant, en remontant, les pas de basque, comme ceux des bacchanales. Il y a aussi les chassés dans toutes les directions. Ils avaient un large répertoire de tours, tours en dedans, en dehors, tours fouettés, avec ou sans changement de pied, détournés, tours en l'air, tours enveloppés, déboulés, pirouettes. On pourrait continuer ainsi la gamme des tours. Maintenant, allons avec la gamme des sauts. Saut de chat, spécialité des faunes, soubresaut, saut de l'ange, les sissonnes réservées aux divinités comme Niké, Eros ou Dionysos, ou les pyrrhichistes. Les sissons, les cabrioles derrière ou devant, petits ou grands jetés, sauts de biche, temps de flèche. Sans oublier les pas complexes comme les ronds de jambes, les faillis et tous les pas passant de la verticalité pour descendre au sol. Surtout dans la mimique des combats, comme la marche à genoux ou bien encore les satyres rampants. Bien sûr, toutes les positions du corps penchées en avant, en arrière ou avec grâce, comme les danseuses de Tanagra, ont une signification précise. N'oublions pas les ports de bras, qui étaient également très riches et avaient une importance capitale pour expliciter ce que le danseur devait exprimer. Il faut aussi ajouter le travail des mains, probablement originaire d'Asie, qui faisait l'objet de beaucoup de précision et était appris avec soin. Dans l'Antiquité, la danse avait une influence morale, comme la lecture peut en avoir une aujourd'hui. La danse n'est pas un art facile ni aisé, mais au contraire, un art qui s'élève au plus haut sommet de l'enseignement. Ce que nous dit Lucien, sophiste du IIe siècle, à Dicias.